RFI, grand reportage.
Guillaume Cordeau.
Et c'est aujourd'hui la suite de notre série de grands reportages consacrés à la crise qui sévit dans la région du Poule au Congo-Brazzaville. Crise née il y a un an au lendemain de la réélection contestée du président Denis Sassou Nguesso. Il y a un an, les forces de sécurité lançaient une vaste opération militaire pour arrêter Frédéric Binsamou, plus connu sous le nom de Pasteur Ntoumi, qui est alors accusé d'avoir attaqué la capitale avec ses hommes. Un an plus tard, le révérend reste introuvable, mais la crise subsiste avec 20 000 déplacés. La Fédération internationale des droits de l'homme dénonce une répression cachée dans plusieurs districts, historiquement hostile au président. Une crise qui interroge, s'agit-il d'une opération antiterroriste, comme le disent les autorités, ou d'une crise orchestrée, comme le pense la FIDH. Florence Maurice a mené l'enquête sur la base de nombreux témoignages de déplacés.
Octobre 2016, au palais des congrès de Brazzaville. La Nation rend hommage à une quinzaine de militaires tués quelques jours plus tôt dans le département du Poule. À la tribune, Clément Mwamba, le Premier ministre, accuse les partisans de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias le Pasteur Ntoumi.
Ils ont encore détruit, ils ont encore massacré, ils ont encore volé, ils ont encore pillé dans le département du Poule.
Ce jour-là, cela fait près de 6 mois que les autorités ont lancé leur opération militaire dans le Poule. Objectif affiché, mettre la main sur le Pasteur Ntoumi, sous le coup d'un mandat d'arrêt, accusé d'avoir attaqué le sud de Brazzaville au lendemain de la présidentielle en avril 2016 et de mener depuis des attaques terroristes. Devant les familles de victimes éplorées, le ministre de la Communication Thierry Mungala redit toute la détermination du gouvernement à poursuivre la traque.
Le peuple unanime, la nation éplorée, aujourd'hui demande justice et souhaite que les autorités compétentes mettent la main sur M. Binsamou et ses acolytes et procèdent à leur déferrement auprès de la justice. Parce que trop c'est trop.
Les autorités s'expriment rarement sur le Poule, le plus souvent pour dénoncer la barbarie des hommes du Pasteur Ntoumi, les combattants ninjas. Mais il y a une autre réalité à ce conflit, les souffrances des populations civiles, nombreuses à dénoncer la violence de la riposte des forces armées.
Il y a eu bombardement à Kindandangwedi. J'étais ensemble avec ma famille, j'ai 4 gosses. Nous étions plus de centaines, mais alors que les autres, ils étaient morts sur place, calcinés en même temps, brûlés des corps jonchés. Donc, il y a des gens qui ont perdu des vues, il y a les gens qui ont perdu des 4 membres, donc les intestins dehors. Alors, il fallait se cacher.
Arnaud a cru se mettre à l'abri dans une maison abandonnée. Les militaires n'ont pas tardé à le retrouver.
Il y avait des militaires qui ont envahi la zone. On tapait la population, quoi. Ils tapaient, ils violaient, à l'œil nu comme ça, là. Donc, vraiment, c'était choquant. On m'avait ligoté, on m'avait tapé, tout de même là, le pied me fait mal. Il y avait des beurrés violets, il y avait des beurrés noirs, l'armée de terre, quoi. Alors, nous, on avait eu la chance de s'en sortir. Un sergent-chef, un adjudant, plus un capitaine, qui nous avait pris en sécurité, raison pour laquelle l'hélico nous avait ramenés ici, là, à Brazzaville.
Les témoignages comme celui d'Arnaud ne sont pas rares. Ce chef de village, par exemple, lui aussi dit avoir été tabassé. Il préfère garder l'anonymat et taire certains détails par peur des représailles.
Quand ils nous tabassent, ils disent que nous sommes des ninjas, nous sommes des complices, nous ne voulons pas montrer là où est Ntoumi. Tant que vous ne montrez pas là où est Ntoumi, vous n'aurez jamais la paix. Alors, nous ne connaissons pas là où est Ntoumi.
Les gens soutiennent le Pasteur Ntoumi ou pas?
Non. La majorité ne le supporte pas. Et surtout en ce moment que nous parlons, nous, population, vraiment, on le nie. On cherche, il faut qu'on le trouve, qu'on le finisse pour que nous soyons libres.
D'autres, là encore nombreux, racontent avoir fui leur village, vu leur maison brûlée, leurs biens pillés, leurs champs saccagés par des militaires, comme ces jeunes déplacés.
Tout brûlé, là où nous quittons. Tous les habits brûlés, ça, tout.
Les militaires.
Ils ont brûlé vos habits?
Ils ont brûlé tout.
Ils ont brûlé les habits, oui. Ils ont cassé les maisons, donc il n'y a plus de maisons là-bas. Les maisons, on a levé des tôles, on a cassé des maisons, donc là-bas, il n'y a plus de maisons. Ni l'élevage, il n'y a plus les animaux. On a tout pillé.
Il y avait des ninjas dans votre village?
Non, c'est moi des militaires. C'est les militaires qui ont créé tout cela.
Début 2017, coup sur coup, deux rapports ont tiré la sonnette d'alarme. L'un signé de l'OCDH, l'Organisation congolaise des droits de l'homme, le second du département d'État américain. Les ninjas y sont accusés, eux aussi, de commettre de graves exactions, attaques, pillages, viols. Mais dans ces deux rapports, la majorité des violences est imputée aux forces armées congolaises. Le 13 mai dernier, sur France 24, le président Sassou Nguesso a rejeté en bloc ces accusations.
Bon, je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Dans le pool, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique.
Donc le département d'État américain, l'émanation du gouvernement...
Je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté et envoyé une mission dans le pool. Je ne suis pas sûr. Je
crois ils inventent des
histoires. C'est une grosse erreur. Il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde. Je ne reviens pas là-dessus. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le pool et d'entrer en contact avec les populations.
Ce n'est pas faute d'avoir essayé. En une année de crise, Trésor Nzila, le président de l'OCDH, n'a pu se rendre qu'une seule fois dans le pool en juin dernier. Depuis, il tente en vain d'obtenir une autorisation.
Nous avons demandé au ministre de la Justice qu'il y ait une mission d'enquête indépendante. Mais il n'a pas été, favorable. Le CICR, les Nations Unies, l'Union Européenne n'obtiennent pas d'autorisation officielle pour aller dans le pool. C'est un huis clos. Le CICR qui va, le Caritas qui va, s'arrête à Kinkala. Or, on a besoin d'aller au-delà de Kinkala, dans tout le département, sillonner tout le département du pool pour voir exactement ce qui se passe. J'ai l'impression que nos autorités font semblant de méconnaître la réalité dans le pool.
En coulisses, les Nations Unies ont pourtant exprimé leur inquiétude elles aussi. L'été dernier, après des semaines de négociations, une équipe du Haut Commissariat aux droits de l'homme a enquêté à Brazzaville et dans quelques localités du pool. Ces conclusions n'ont pas été rendues publiques mais transmises aux autorités. Les extraits auxquels RFI a eu accès dépeignent un climat général de répression au Congo, indexent eux aussi les ninjas mais surtout les forces armées, et demandent enfin une enquête impartiale et indépendante. Un simple détour par le marché total de Brazzaville suffit en tout cas pour mesurer l'ampleur du blocus que subit une partie du département. Sur les étals, après un an de crise, certaines denrées sont devenues rares et les prix ont flambé.
Peut-être le manioc en coût, c'est très cher. Tel que ça, là, c'est 5 000. Donc, c'est vraiment, ça ne va pas. Avant, c'était 2500.
Est-ce qu'il y a des produits qu'on ne trouve plus?
Oui, tels que le charbon, on ne trouve plus le foufou, c'est cher, tout. Ce que tu trouves au village, tout ça, c'est tout coûte cher. Et bien, c'est le foufou. Achète-moi le foufou. À 3000.
Le pool, historiquement grenier de Brazzaville, débute aux portes de la capitale. Ce matin, on apprend que les bus en provenance de Goma Tsetse, à 20 km de là, utilisés pour ravitailler le marché, ont cessé de circuler.
Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus de bus qui viennent ?
Il n'y a plus de bus, rien. Les gens même ne sortent plus. Ils ne peuvent pas aller, il y a les bus qu'on avait brûlés là-bas. Les gens ne viennent plus, ils sont dans le brousse, il n'y a personne.
Un peu plus loin, ce commerçant originaire de Massembo a dû venir à pied pour vendre sa marchandise.
J'habite Massembo dans le pool. Pour expédier la marchandise vers ici, il n'y a plus de transport. Donc, le peu de marchandises que nous avons, nous devons les transporter à pied. Du coup, on peut seulement acheminer de toutes petites quantités. En plus, c'est très risqué. On peut être pris dans des embuscades, soit par les ninjas, soit par les militaires. Et les militaires qui sont sur place nous interdisent de transporter les marchandises vers la ville.
À ses côtés, une villageoise, la cinquantaine, harassée, énervée. Elle arrive tout juste du pool. Elle décrit la pénurie alimentaire qui sévit sur place.
La maison, on a cassé le chemin pour là.
Au village là-bas, c'est difficile à cause de la malnutrition. Il y a des gens qui ont les pieds enflés. On ne mange pas. C'est vraiment très très pénible.
1000 francs.
On a des pénuries, par exemple, le sel. On nous vend une cuillère de sel à 1000 francs, alors qu'avant c'était 25. Et pour trouver de quoi manger, il faut se cacher et se faufiler dans la forêt, car les militaires et les forces de l'ordre qui sont sur place nous poursuivent partout. On prend des risques pour aller chercher de quoi manger. Il faut tout faire en cachette. Qu'est-ce qu'on a fait aux poules pour subir ça?
Je rentre plus, je vais rester ici.
L'atmosphère dans ces villages du Poule semble oppressante. Étienne, lui aussi, s'est échappé d'une localité touchée par la famine, mais il a dû déjouer la surveillance des militaires.
C'était difficile de quitter, parce que là-bas, l'armée refuse à la population de sortir, comme dans un enclos. Donc, vous pouvez même pas aller à 3 km de la gare. Donc, vous êtes juste dans le village. Donc, il n'y avait plus rien à manger. Même là, c'est avant-hier que j'ai appris qu'il y a encore eu un décès là.
Deux
déjà, qui sont morts dans la maison.
Qu'est-ce que les militaires vous disent pour expliquer qu'ils ne vous laissent pas sortir?
Donc, de peur que s'ils libèrent la population, qu'on vienne leur attaquer. C'est ça. Ils ne peuvent pas rester seuls dans le village. Nous, on ne comprend pas pourquoi on nous garde. C'est devenu comme une punition. Parce qu'ils sont là pour la sécurité, d'après eux, ce qu'ils nous disent.
Combien de Congolais vivent encore reclus dans ces villages? On l'ignore. Alphonse a pu fuir, mais il a laissé derrière lui sa mère, sa sœur et ses deux neveux. En avril dernier, une trentaine de personnes atteintes de malnutrition, surtout des enfants, ont été exfiltrées vers Brazzaville par les autorités à bord d'un hélicoptère de l'armée. Un choc dans l'opinion. Gibrice Parfait-Kolela, député de Kinkala, la préfecture du Poule, et ancien candidat à la présidentielle, leur a rendu visite.
C'est dommage que les caméras ne sont pas passées là pour filmer ces gens-là avec des cheveux roux, des ventres ballonnés. C'est grave. Certains de mes attachés sont encore à l'intérieur. Les commerçants ne peuvent pas accéder dans le Poule. Pour y accéder, il faut les laisser passer. C'est comme si on était dans la bande de Gaza. Et ces laissés-passer sont délivrés par les autorités militaires ou les autorités administratives. C'est ça ce qui se passe. Donc, moi, je ne pense pas que la traque d'une seule personne, de 4 individus, puisse amener à ce que tout un département ou 6-7 districts puissent être mis en difficulté. Je crois que le président de la République a une mauvaise fiche. Je conseillerais qu'il appelle les élus du département du Poule, qui vont lui dire la réalité, puisque nous vivons ça dans nos circonscriptions, au lieu de toujours écouter les rapports des militaires.
Pourquoi une chasse à l'homme provoque autant de déplacés, 20 000 au bas mot et autant de violence? Les autorités accusent le pasteur et ses hommes de mener une guerre asymétrique, une guérilla, et de prendre la population en otage. Arsène, lui, qui témoigne en catimini dans le recoin d'une paroisse, a fui les militaires qui brûlaient son village et il ne comprend pas pourquoi.
Non, mais les raisons, on ne les donne pas. Tout ce que nous savons officiellement, qu'ils sont à la recherche des ninjas. Oui, c'est tout ce que nous dit. Malheureusement pour nous, c'est que les ninjas ne sont pas avec nous dans le village. Hein? Bon, mais eux, ils font des sévices sur nous qui sommes au village. Donc, au lieu de les pourchasser dans les forêts, s'ils ont vraiment des renseignements, ils devaient le faire. Mais ils s'en prennent seulement à la population.
On ignore de combien d'hommes dispose le pasteur Ntoumi. On ne sait pas non plus combien de militaires sont engagés dans l'opération. L'armée ne communique pas sur le sujet. Certains témoins disent avoir été protégés, secourus par l'armée, d'autres en avoir été victimes. Sur le terrain, les habitants comme Arsène comprennent mal la stratégie des différentes unités déployées, armées régulières et gardes républicaines notamment, parfois dans le même village.
Ils sont parfois même en contradiction. Hein. Et ça c'est visible, parfois vous êtes là, vous les assistez, et ils ne s'entendent pas. Et quand ils arrivent, parfois, ils n'annoncent pas leur arrivée. Et les militaires qui sont sur place sont surpris et ils passent. Oui.
La garde républicaine, vous voulez dire?
Oui, quand la garde républicaine arrive, il n'y a pas de mot de passe, ils ne s'occupent même pas des militaires qui sont là. Ils font ce qu'ils veulent, ils repartent. Bon, ils ne sont pas ensemble. Parfois, visiblement, ils sont en contradiction devant les populations.
Le flou qui règne sur le terrain complique aussi la tâche des humanitaires. Du jamais vu pour Alain Robert Mukuri, le président de Caritas Congo, dont l'organisation a pourtant assisté les populations durant les pires heures de la guerre civile.
C'est pour la première fois qu'on n'arrive pas à accéder dans toutes les localités. En 1998, nos équipes arrivaient à avoir un consensus entre l'armée et le groupe ninja. Or, en ce moment, on a du mal à savoir avec qui dialoguer. Il n'y a pas d'embuscade et vous êtes en face d'un groupe que vous ne savez pas qui est le leader. Et ça peut être plus compliqué. Les forces gouvernementales peuvent dire oui, vous pouvez aller, mais on peut. On a eu des cas où on a eu l'assurance d'aller, mais en chemin, on a été braqué par des gens qui étaient cagoulés. On ne sait pas qui.
Aucun chiffre n'est disponible sur les pertes en vie humaine. Ponctuellement, les autorités déplorent des militaires tués. Les victimes civiles ne sont presque jamais évoquées. La crise s'enlise et les appels se multiplient pour réclamer l'ouverture d'un dialogue et un couloir humanitaire. Le député Guebriz Parfait-Kolela.
Je demande à ce que on règle nos conflits par le dialogue, pas seulement, pas toujours par la force. Vous voyez ce que ça donne. Nous avons invité les prêtres et le Sénat à s'y mêler. Nous avons invité même le Conseil national des sages du Congo qui avait accepté. Mais les autorités, les plus hautes autorités ont fermé la porte et les portes de leur cœur.
Pour le Premier ministre Clément Mwamba, une seule chose est envisageable, la reddition du pasteur Ntoumi.
Nous ne dialoguons pas avec un terroriste, on ne dialogue pas avec quelqu'un qui est poursuivi. Monsieur Ntoumi le sait très bien. Monsieur Ntoumi, il faut qu'il se présente aux forces de l'ordre. Il sera rapatrié, il vient, il subit son procès. C'est tout ce qu'on lui demande. Et qu'il laisse tranquille les populations qui sont dans cette zone. Nous recherchons Ntoumi, mais les forces de l'ordre ne sont pas là-bas pour traquer les populations congolaises. Donc il ne faut pas qu'on nous amène un mauvais débat, que le gouvernement volontairement se comporterait en train de martyriser les populations du Pôle. Nous sommes bien conscients qu'il y a des gens qui veulent bien sortir de ces zones. Nous sommes également conscients que lorsqu'on fait sortir certaines personnes de ces zones, il faut en avoir le cœur net. Que c'est bien des gens qui ne sont pas des faux ninjas déguisés qui, une fois arrivés à Brazzaville, se transformeraient en poseurs de bombes.
Difficile d'engager un dialogue dans ce climat de méfiance. À Brazzaville, Jean-Baptiste Ntondo, un proche du pasteur Ntoumi, assure être dans la capitale pour des prises de contact. Mais on est encore loin du dialogue. Tant les visions du règlement de la crise sont opposées, le gouvernement prône une solution militaire, l'émissaire réclame un dialogue politique.
Nous considérons que le référendum constitutionnel n'avait pas sa place. Et c'est ça qui a fait qu'il y ait des problèmes. Ensuite, il y a eu l'élection qui a été truquée. Le problème du Congo est un problème politique, c'est pas un problème judiciaire. Le patient, lui, demande que la réponse soit faite autour d'une table, que tous les Congolais s'assoient, qu'il y ait un dialogue inclusif pour qu'on règle ce problème.
Une semaine après cette interview, Jean-Gustave Tondo a disparu et serait depuis, selon ses proches, retenu par les services de sécurité. C'est déjà la troisième mésaventure de ce type vécue par l'émissaire en un an. Pour quelles raisons? On l'ignore. Cette disparition illustre les zones d'ombre d'une crise complexe à décrypter. Face à cela, la présidente de la principale plateforme d'opposition, Claudine Mounari, accuse les deux parties de jouer un double jeu et les autorités d'instrumentaliser la situation.
La guerre du Pôle, c'est une manœuvre qui a été trouvée par le régime pour se distraire de la crise politique née du hold-up électoral. Ntoumi est soutenu par des ailes de l'armée, des responsables politiques, je le dis. Vous me direz, j'en ai pas les preuves. Oui, j'en ai pas les preuves, mais je me pose des questions de simple bon sens. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Où est-ce qu'ils trouvent le carburant? Où est-ce qu'ils trouvent les munitions? Je pense qu'ici, il n'y a qu'une personne qui est habilitée à acheter les munitions, c'est le gouvernement.
Vous estimez qu'il y a forcément des complicités?
Mais bien sûr, il y a malice. Le projet est ailleurs. Vous savez, il y a beaucoup de choses cachées dans ce pays. Et peut-être qu'un jour, il faudra que tout ça qu'on fasse la lumière sur tout ça.
Double jeu supposé ou réel, huis clos et blocus, la crise du Pôle est difficile à appréhender pour les observateurs. Dans le secret des chancelleries, beaucoup se demandent comment Brazzaville va pouvoir tenir des élections législatives en juillet dans de telles conditions. En avril, François Fall, représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région, est venu discrètement sur place pour tenter de faire bouger les lignes. Mais après une année de crise au Congo, beaucoup aimeraient que la communauté internationale formule désormais ses inquiétudes à haute voix. Congo-Brazzaville, le Pôle, les dessous d'une crise qui s'enlise. Un grand reportage de Florence Maurice, réalisation Sandrine Strara.
Yeah.